Bonsoir. Bienvenue pour cette troisième séance du cours de cette année sur l'architecture vecteur du politique. Ce cours, contrairement à ce que je vous avais annoncé, ne sera pas mon dernier dans ces lieux, puisque le collège m'a gentiment confirmé que mon espérance de vie était prolongée de 3 ans, ou plutôt que j'avais fait une lecture pessimiste des textes. Donc vous aurez l'occasion, si vous n'êtes pas là, de m'entendre à nouveau au printemps prochain. Alors, aujourd'hui, je poursuis mon interrogation sur les rapports de l'architecture, de la politique et du temps en me posant les problèmes de la continuité. Et je vous transporte à Berlin. À l'automne 2008, la scène se passe dans les locaux de l'ancien Conseil d'État de la République démocratique allemande, un peu moins de 20 ans après la disparition de cet État très spécial né de la guerre froide. Un jury, vous voyez ici ce jury, dont je suis membre suppléant, donc sans droit de vote, mais avec droit de photographie, est rassemblé pour décider du projet lauréat pour la reconstruction du château des Hohenzollern, donc de la dynastie régnante de Prusse et puis de l'Empire allemand, château censé désormais abriter un Humboldt Forum, un ensemble d'institutions culturelles jusque-là disséminées dans la partie occidentale de la ville, notamment d'une série de musées et d'institutions culturelles variées. Le château, édifié par fragments, le château des Hohenzollern, dont je vais reparler, qui avait été édifié par fragments depuis le XVIe siècle, avait été détruit non pas par les bombardements alliés, il était parfaitement debout en 1945, mais par une décision délibérée du gouvernement de la déjà nommée République démocratique allemande, qui entendait ainsi, selon les figures dont j'ai parlé la dernière fois, les figures architecturoclastes, qui entendait ainsi effacer non seulement les traces du Second Reich allemand, de l'Empire wilhelmien, mais aussi celle de toute la dynastie des Hohenzollern. Seul fut conservé, comme vous le voyez en haut, un fragment de façade du Schloss, du château, enchâssé dans ce bâtiment fort médiocre. Pourquoi ? Car il contenait le balcon d'où Karl Liebknecht avait proclamé en novembre 1918 la chute du régime impérial, donc un lieu de mémoire du mouvement socialiste et communiste allemand. De l'autre côté de la rue, le Palace des Républiques, que vous voyez en bas, vestige des ambitions monumentales du régime est-allemand dans sa phase tardive, dans les années 70, grand bâtiment public qui ressemblait fort à un supermarché et qui fut détruit en 2006. J'aimerais rapprocher cette entreprise de celles qui furent engagées par d'autres régimes entendant effacer des changements résultant de soulèvements ou de révolutions. À Paris, la chambre de la Troisième République naissante s'est refusée à restaurer le palais des Tuileries, incendié sous la Commune de 1871. Il était parfaitement possible de le reconstruire, mais le nouveau régime républicain, donc installé à partir du régime de la Troisième République, installé après un vote du Parlement de 1875, considéra d'abord d'y installer le musée des artistes vivants, qui était situé dans le palais du Luxembourg, l'ancêtre du musée national d'art moderne. Donc le Parlement, la chambre de la Troisième République y voyait un symbole de l'absolutisme et détruisit les ruines des Tuileries. Comme vous le savez sans doute, certains fanatiques imaginent aujourd'hui encore de reconstruire l'édifice. Je ne commenterai pas. Moscou, j'en ai déjà parlé, mais j'y reviens. Moscou offre l'exemple d'une opération comparable à celle de Berlin. Comme on l'a déjà vu, le régime post-soviétique de Boris Yeltsin fit de la reconstruction de l'église du Christ Sauveur un symbole de la réparation des dommages causés par le vandalisme bolchevique. Milliers d'églises et de monastères détruits à Moscou et ailleurs. Le bâtiment de Konstantin Ton, édifié à partir des années 1830 pour célébrer la victoire sur Napoléon, et qui avait été dynamité en 1931 pour laisser place au délirant palais des Soviets dont je parlerai tout à l'heure. Donc cet édifice a retrouvé sa prestance. bien qu'il s'agisse d'un faux complet, puisque seule l'iconostase originelle avait été préservée. Ce que j'appellerais cette pulsion de reconstitution ou de réparation, ou d'expiation dans le cas d'un bâtiment religieux, s'est aussi exprimé ailleurs à Moscou, par exemple, avec la recréation version Walt Disney des portes de la résurrection qui donne accès, qui à nouveau donne accès à la place rouge depuis la place du manège, vous voyez ici la place rouge, tandis que d'autres projets, celui de reconstruire la très belle sour Sukhaïevka du XVIIe siècle, ont été abandonnés, en tout cas jusqu'à ce jour. Pour en revenir à Berlin, et l'histoire n'est pas terminée, le bâtiment s'achève aujourd'hui, le concours de 2008 fut organisé en vertu d'une délibération du Bundestag, très intéressante, qui contenait des prescriptions architecturales très explicites. À mon sens, c'est une sorte de précédent que de voir un Parlement se prononcer sur l'architecture d'un édifice et subordonner ses financements au respect d'un cahier des charges architecturales. En l'occurrence, le financement fédéral, vous savez que le Bund allemand, je parlerai de l'Allemagne la prochaine fois, le Bund allemand est très réticent à financer la culture directement, le Bund, qui est une prérogative des Länder, le Bund a financé ce projet à condition que soit reconstituée non seulement la Schlüterhof, ainsi nommée d'après son auteur, sculpteur et architecte Andreas Schlüter, mais aussi la coupole du château, qui a été refaite en béton. Il est remarquable, et ici vous voyez le projet lauréat avec la coupole, dans le site, ici l'Altes Museum de Schinkel, ici le bâtiment du Conseil d'État de l'Allemagne de l'Est et la partie centrale, vestige du vrai château dont j'ai parlé, et voici le nouveau bâtiment avec la Schlüterhof et la coupole. Il est remarquable, disais-je, que la façade sud-est du château sur l'Achepree, que vous voyez en dessous de cette image, construite à la fin de la Renaissance, n'ait pas été considérée comme devant être restituée avec toutes ces irrégularités charmantes et pittoresques qui font penser à la conciergerie à Paris, contrairement aux grandes murailles du sud, du nord et de l'est. Cette décision, je vois dans cette décision l'indice d'une démarche dans laquelle le bâtiment limité à ses façades les plus solennelles devait nécessairement relever de l'ordre du sublime. Le projet de Franco Stella, lauréat du concours, architecte vénitien tendance Aldo Rossi, avec ses accents métaphysiques et sa rhétorique calmée, et en dépit de ses contradictions fonctionnelles, car c'est un projet très, très difficile, parce que pour respecter le gabarit de la façade et celui de la cour, les ailes du bâtiment sont très étroites et donc mal adaptées à la présentation des collections qu'il est censé abriter. Ce projet de Stella fit l'objet d'un consensus, oui, restons-en au jury, singulièrement dépourvu d'enthousiasme au sein d'un jury presque étonné de pouvoir sortir de l'impasse dans laquelle il se trouvait, car au fond, le parti avait été décidé déjà par le Bundestag et il ne s'agissait que de trouver des solutions de détail. La fantaisie d'une reconstitution de ce qui fut afin de suggérer la continuité historique entre des régimes que des siècles séparent parfois n'est qu'une des modalités de la nostalgie historiciste à laquelle succombent des régimes que tout peut opposer par ailleurs, régimes très différents. Cette attitude peut être comprise à partir de concepts comme ceux qu'a proposé l'historien allemand Reinhard Koselleck en 1979, dans un très beau livre intitulé « Vergangene Zukunft », le futur passé en français, il fut traduit rapidement, un livre dans lequel il confronte l'espace d'expérience des hommes, des citoyens, et leur horizon d'attente. Je reviendrai sur ces deux distinctions plus loin. Dans les stratégies nostalgiques comme celles que nous voyons ici, tout se passe comme si le premier, l'espace d'expérience conditionnait, voire contaminait le second, l'horizon d'attente, si cette attente n'était plus celle d'un véritable futur, mais l'attente d'un retour du passé. Il s'agit là, au demeurant, d'une des formes les plus achevées du phénomène de la répétition ou de la reproduction. Et je renvoie à un autre livre de plus ancien, le livre, très beau livre aussi, de George Kubler, historien de l'Amérique précolombienne, livre de 1962 intitulé « The Shape of Time » est traduit sous le titre « Forme du temps, remarques au pluriel sur l'histoire des choses ». Kubler considère dans ce livre ce qu'il appelle la « replication », le travail de la réplique, qui, selon des formes multiples, s'est manifesté au XXe siècle au travers de l'appropriation de la syntaxe ou de l'appropriation des lexiques du passé, après qu'il ait été bien plus tôt, très souvent, bien plus tôt, et souvent avec une chute de qualité. C'est ce que remarque Kubler, que je cite lorsqu'il compare l'œuvre initiale, l'œuvre première et la réplique. Une augmentation de la qualité, et je vous invite à regarder ces deux bâtiments, une augmentation de la qualité est possible par rapport à l'œuvre première quand l'auteur d'une réplique enrichit son modèle en lui ajoutant des excellences, en lui ajoutant des qualités. Une diminution de la qualité se fait jour lorsque l'auteur réduit l'excellence de la réplique, que ce soit sous la pression de l'économie ou du fait de son incapacité à saisir tout le spectre ou la portée du modèle, donc qu'il soit sans talent ou qu'il soit bête. Fin de citation. La réplication est le fait des régimes nouveaux, parvenant à s'imposer parfois au terme de conflits sanglants, et d'autant plus prompt à mettre en place les témoignages d'une nouvelle politique nostalgique, le cas échéant. Alors, un cas méridional, le cas de l'Espagne des lendemains de la guerre civile, Espagne dans laquelle les administrations de Franco vont chercher dans les grandes heures de l'histoire nationale les thèmes utiles à leur monumentalisation. Le vaste Ministerio del Aire que vous voyez en bas de Luis Gutiérrez Soto sur le Paseo de la Castellana à Madrid, construit à partir de 1943, emprunte à l'Escorial de Herrera, ses tours d'angle, vous le voyez très bien ici, et reproduit une version simplifiée de son, en réduisant la hauteur de son motif central. Restons en Espagne. Les reconstructions, un fascisme original en Espagne, mais souvent un fascisme dérivatif. Il y a là une sorte d'itération entre notamment les expériences italiennes et celles de l'Espagne de l'Espagne de Franco, à tout le moins dans les 15 premières années du régime. Les reconstructions engagées parallèlement dans les plus emblématiques des villes ou des bourgades détruites pendant la guerre utilisent des thèmes empruntés à l'architecture des XVIIe et XVIIIe siècles, assemblés sur des plans inspirés, et là il y a une espèce de dissociation, des plans inspirés de ceux des villes nouvelles, des marais pontins du fascisme italien, sans pour autant que les édifices modernes utilisés en Italie, puisque ces villes nouvelles des marais pontins sont faits par des modernes, soient transférés. Ici, Belchite, en Aragon, théâtre d'une bataille sanglante entre franquistes et républicains en 1937. La mairie, la nouvelle mairie, l'Ayuntamiento, est associée à un portique à arcades et traitée comme une demeure aristocratique de l'âge baroque. À Guernica, localité dont le monde entier a découvert le nom lors du bombardement qui eut lieu, je vous le rappelle, en avril 1937, le régime prend soin de réaliser une reconstruction manifeste autour de la Plaza Mayor, que vous voyez en haut. Les ensembles d'habitations, cette fois, sont conçus pour souligner l'hispanité du Pays basque et en effacer les traits spécifiques pour revendiquer le caractère espagnol de Guernica. Il est vrai, et au-delà de l'Espagne, et de cette guerre civile, somme toute assez brève, mais intense, il est vrai que les destructions apportées par les guerres sont un puissant vecteur de nostalgie. Comme si, pour que le travail de deuil consécutif à la perte des édifices, à la perte de substance de l'architecture, pour que ce travail puisse s'effectuer, il fallait multiplier les signes rassurants d'une identité retrouvée, quitte à la transformer, la déformer ou même l'imaginer. L'Europe des lendemains de la Première Guerre mondiale offre des exemples significatifs de cette démarche, très nombreux, notamment en France, mais sortons un peu de France à nouveau. Ici, un des rares exemples de reconstruction allemande, puisque vous savez que les Allemands combattent à l'extérieur de leur territoire pendant la Première Guerre mondiale, à une exception près, qui est la Prusse orientale, que les Russes parviennent à envahir en 1914. Donc ici, Goldap, bourgade de Prusse orientale détruite par l'armée du Tsar en 1914, La reconstruction est menée de 1916 à 22 par Fritz Schopphol, un professionnel lié à l'école de Stuttgart, dont on aura l'occasion de reparler, et à des théoriciens comme Georg Steinmetz, une reconstruction, qui prendra une valeur démonstrative tout au long de la République de Weimar, en condensant l'image d'une architecture traditionnaliste ancrée dans les solutions du début du XIXe siècle. Ici, c'est le début du XIXe siècle qui est l'âge d'or, la période idéale, une période qui a été popularisée dans un livre de Paul Mebus, très important, dont je parlerai aussi bientôt, « Artzehnhundert », autour de 1800, ou dans les travaux culturels de Paul Schulze-Naumburg. C'est une problématique, celle de la célébration du début du XIXe, qui est au centre de l'action du mouvement pour la protection des paysages allemands, pour le mouvement dit du Heimatschutz. Les chantiers menés au même moment, un peu plus tard peut-être, dans les régions dites dévastées de la France du Nord et du Nord-Est, tendent dans certains cas, dans la plupart des cas, à la reconstitution, non pas à la reconstruction, le terme utilisé est la reconstitution, pure et simple des ensembles disparus, comme dans le cas de la Grande Place d'Arras par Pierre Paquet. Dans les villages et les agglomérations rurales, une observation attentive des modes de composition et des solutions esthétiques locales aboutit à de premières expressions d'un régionalisme qui entend revaloriser non pas les traditions de l'architecture savante, mais celles d'un vernaculaire qui se voudrait fonctionnel et élégant. Des expositions sont organisées, des ouvrages publiés à Paris dans cette perspective qui auront un impact tout à fait durable, y compris sur les architectes modernes. Bien au-delà de réalisations sur le terrain que tout le monde, à quelques exceptions près, comme ici à Arras, considérera comme décevantes. L'ouvrage de Charles Le Trône, l'architecte du Zoo de Vincennes, comme vous le savez sans doute, « Murs et toits pour les pays de chez nous », en codifie en 1923 les principes sous une forme séduisante. Ce livre sera sur toutes les tables des élèves de l'École des Beaux-Arts pendant des décennies. Lorsque de nouvelles destructions frapperont la France en 1940, et en dépit des accents conservateurs du régime de Vichy, le rapport poursuivi avec la tradition sera associé à des démarches plus expérimentales, dont j'ai déjà parlé ici, comme celle conduite sans tarder dès 1940-41 à Gien ou Sully dans le Val-de-Loire. Des opérations qui se déroulent sur les lieux mêmes des destructions qu'elles visent à effacer. Ce rapport au passé peut aussi prendre des formes différentes dès lors qu'il se met en place entre deux villes distantes dans l'espace et dans le temps. Il ne s'agit plus alors de l'identification à un état antérieur d'un lieu donné, du lieu où l'histoire se passe, mais plutôt d'un double transfert par lequel une forme urbaine en vient à en contenir une autre, selon un principe homologue de celui que la science littéraire appelle l'intertextualité. Et c'est un phénomène que je vous propose un néologisme de dénommer interurbanité. Comme les relations entre deux textes, celles établies entre deux formes urbaines peuvent procéder par citation, paraphrase, parodie, inclusion, condensation, et selon de multiples autres figures, comme c'est le cas par ailleurs pour les relations entre édifices. Il en va ici de ce que Gérard Genette, qui vient de disparaître, dénommait plaisamment pour nous, l'architexte, et qu'il définit, je cite, comme cette relation d'inclusion qui unit chaque texte aux différents types de discours auxquels il ressortit. Et je dirais qu'il y a un architecte architectural et urbain, et j'en donnerai quelques exemples. Le cas de Venise est, de ce point de vue, tout à fait emblématique de Venise, des édifices, de leur décoration et du sens qu'ils prennent. Les chevaux de bronze, que vous voyez ici au milieu de la façade de la basilique de Saint-Marc, qui avaient été transportés de Constantinople à Venise au XIIIe siècle par le doge Enrico Dandolo à la suite de la quatrième croisade, n'était pas qu'un ensemble de sculptures autonomes, qu'un objet, mais il faisait partie intégrante de la composition de l'hippodrome de Constantinople. Une fois placés sur la terrasse de la basilique de Saint-Marc, ils font de la place qu'ils dominent une nouvelle version de l'espace majeur de la capitale de l'Empire byzantin. Venise devient ainsi la nouvelle Constantinople. Et le symbole était si puissant qu'en 1798, comme vous le savez, Bonaparte transporte ses chevaux de Saint-Marc, désormais dénommés de Saint-Marc, à Paris, afin d'en surmonter l'arc de triomphe du Carrousel, avant même qu'il ne concrétise lui-même le projet d'un nouvel empire s'étendant à l'échelle de toute l'Europe, et incluant Venise. Ses chevaux y revinrent à Venise au lendemain de Waterloo. Si Venise entendit capter l'aura de Byzance, cette correspondance entre l'hippodrome et Saint-Marc a été notamment soulignée par ce magnifique historien des villes qu'était André Corbeau. Donc si Venise capte l'aura de Byzance, le projet d'une rénovatio urbis formulée à Rome par plusieurs papes et mise en œuvre notamment dans les programmes monumentaux de Jules II ou Sixte Quint se traduit par l'interruption définitive du vandalisme et du recyclage dans les fours à chaux romains des édifices antiques et de leur marbre et par la réécriture de la topographie d'une ville où les vestiges sont identifiés, étudiés, célébrés, copiés. C'est d'elle-même, cette fois-ci, que se nourrit la Nouvelle Rome par un phénomène d'auto-intertextualité. J'accumule les radicaux grecs ici. Dans le même temps que de nouvelles formes urbaines la rendent plus accessible à ses habitants et aux pèlerins. La grandeur de la Rome impériale est utilisée comme signifiant au service des valeurs du catholicisme, ce que, dès le début du XVIe siècle, et bien sûr, la contre-réforme ne fera que confirmer cette attitude quelques décennies plus tard. Le modèle de la Nouvelle Rome, ici le trident de la Piazza del Popolo, avec ses trois rues, la Via del Corso au centre, la Via del Babuino en haut et la Via di Ripetta en bas, ce modèle de la Nouvelle Rome, dont voici un fragment, sera à son tour exploité dans le reste de l'Europe, de Versailles à Saint-Pétersbourg, selon le principe de l'interurbanité que j'ai évoqué. Cette figure du trident, on la retrouve à Versailles, avec les avenues de Saint-Cloud, de Paris et de Sceaux. On le retrouve, ce trident, qui ici trouve son origine non pas dans le palais impérial comme à Versailles, où c'est le palais de Louis XIV qui en est le point d'arrivée ou le point de départ. Ici, un trident est plutôt une forme rayonnante qu'une forme convergente. Ici, le point de départ, c'est la flèche de l'amirauté, du siège de la marine du tsar. Et les trois voies, c'est la fameuse perspective Nevski, c'est la perspective Voznesensky et la rue Gorchovskaya au milieu. Donc, cette figure du trident est une figure nomade, une figure interurbaine. Dans les cas de Venise et de Rome, les sources d'inspiration sont à chaque fois uniques, ou en tout cas, il y a une source dominante, Constantinople pour Venise, Rome pour Rome. L'hypothèse de la rénovatio se trouve aussi plus tard dans le cycle correspondant à la formation des États-nations européens au XIXe siècle. Et c'est sans doute à Athènes que ce dessin est le plus clairement formulé, dans un jeu assez complexe, une fois écartées les idées de Léo von Klenze, l'architecte du roi de Bavière, qui avait déjà exploité le répertoire grec dans la Munich de Louis Ier. Avec les édifices néoclassiques de Théophile et Christian Hansen, architecte danois, les institutions du nouvel État sont hébergées dans des conteneurs en forme de temple, mais dont les dispositifs intérieurs sont ajustés évidemment au programme moderne, une bibliothèque, une académie, une université. Yanis Tsiomis, y reviendra dans le colloque du 15 juin dans ces murs. Dans le grand bazar de l'historicisme du XIXe siècle, tout change. À l'heure où l'histoire de l'architecture devient pratiquement universelle, comme le montrent les ouvrages d'histoire à partir de 1721, du premier d'entre eux, l'essai d'une architecture historique de Fischer von Erlach, architecte viennois, puis avec le recueil et parallèle publié par Jean-Nicolas-Louis Durand en 1801, ou encore beaucoup de travaux des écoles et des historiens, il devient donc légitime de rassembler dans une ville unique des fragments ou des édifices aux origines les plus diverses. un cas précis en l'occurrence, celui de la Vienne des années 60, où Hansen va parvenir à transporter les figures de sa propre architecture athénienne en édifiant le Parlement. Je ne vous le montrerai pas aujourd'hui, j'y reviendrai plus tard. Les modèles à Vienne sont en quelque sorte spécialisés. L'opération urbaine d'ensemble à laquelle la Ringstrasse donne son nom est fondée sur la captation de précédents multiples. Et ce que l'on appelle la Ringstrasse à Vienne, c'est une sorte de métonymie. Ce n'est pas simplement la rue, la voie annulaire, la Ringstrasse, mais c'est le quartier de chaque côté de cette voie polygonale qui assure la soudure entre l'Altstadt, la ville ancienne, et le Vorstadt et le faubourg, la ville plus tardive. Les édifices regroupés à l'ouest du centre transcrivent des changements profonds dans les rapports entre la cour impériale et la société civile, ainsi que l'a montré magnifiquement, il y a plus de 30 ans, Karl Schorske, dans son très beau livre « Vienne, fin de siècle ». Cette transposition prend la forme d'une sorte d'encyclopédie architecturale, dont le point de départ est l'épisode viennois du Printemps des Peuples de 1848, de la Révolution de 1848, qui tétanisa le pouvoir impérial. Pour commémorer la survie de François-Joseph lors d'un attentat perpétré cette année-là, 1848, cette église votive est construite à partir de 1856 par Ferstel dans une écriture néo-gothique qui est en train d'envahir tout le continent. Elle vise à témoigner, je cite, « du patriotisme et de la dévotion du peuple d'Autriche à la maison impériale ». Mais, évidemment, pour l'organe des libéraux, la Neue Freie Presse, elle n'est rien d'autre qu'un symbole du régime, du sabre et du goupillon, terme du journal. Après leur défaite de 1859 face aux Français, le prestige des militaires autrichiens est définitivement terni et ils consentent à se défaire des fortifications qui entouraient encore l'Altstadt. Voici l'Altstadt, ici se trouvait le champ de manœuvre des militaires et le rempart était là. La Constitution met en place l'année suivante un régime parlementaire qui trouve dans les terrains ainsi libérés une scène, enfin cédée par l'armée, une scène pour se représenter, avec notamment le Parlement, dont je parlerai une autre fois. La nouvelle situation politique est transposée spatialement et visuellement avec ce quartier annulaire qui remplace le rempart et son glacis. Selon la belle formule de Schorske, le libéralisme autrichien construit alors sa ville sur la colline, célébrant dans la pierre les valeurs victorieuses d'un recht, d'un droit rationnel et éthique, et d'une Kultur, inutile de traduire, d'une Kultur esthétique raffinée. Fin de citation. Cette ville qui sépare et unifie à la fois l'Altstadt et la Vorstadt, ici, le Vorstadt, possède deux centres monumentaux. Le premier, ici, est lié à la cour impériale, et il reste inachevé. L'idée initiale était de doubler la Hofburg, le palais impérial, de ce côté, par symétrie axiale, et de le prolonger par deux musées qui furent construits, le musée d'art et le musée d'histoire naturelle. Donc ce centre restera incomplet. L'autre, en revanche, l'autre centre, ici lié à la société civile, prend la forme d'un quadrilatère, d'un rectangle, autour duquel se déploient les nouvelles institutions. Chacune d'entre elles utilise une écriture fixée sur une période précise, comme pour faire de la Vienne bourgeoise une collection transhistorique d'architecture publique. Pour célébrer le pouvoir de la municipalité, le pouvoir des élus locaux, l'hôtel de ville de Friedrich von Schmidt emprunte son beffroi aux grands édifices construits entre la fin du Moyen-Âge et la Renaissance, aux Flandres ou aux Pays-Bas, dans des villes où l'autonomie communale est ancienne et bien ancrée. Cette dominante verticale, que vous voyez ici, est flanquée par des éléments d'esprit plutôt baroque, ce qu'on voit mal, ils sont un peu dans les arbres ici, solution éclectique au sein d'un même édifice. De l'autre côté du quadrilatère, du côté de l'Altstadt, vous voyez ici la cathédrale Saint-Étienne, le Hofburgtheater, le théâtre de cour de Zemper et Hasenauer, tranche par sa rotondité avec l'hôtel de ville et se drape dans une interprétation libre du thème de la Renaissance, tardive. Intéressant surtout à cause des décorations du jeune Klimt. Symétrique du Parlement, si on revient à cette image, le Parlement est ici, symétrique du Parlement, l'université a une présence d'autant plus remarquable qu'elle a été en butte pendant beaucoup d'années aux attaques de la droite antisémite et réprimée après la participation des étudiants et des enseignants au combat de 1848. Plutôt que le néo-gothique qui aurait fait allusion aux origines religieuses des collèges européens ou les solutions plus radicales proposées par les universitaires, plus ancrées dans l'âge du fer et du verre du XIXe siècle, Heinrich von Ferstel s'arrête aussi sur un langage ancré dans la Renaissance afin de connoter le caractère séculaire, humaniste de l'institution. Tout se passe donc à Vienne comme si pour chacune des composantes des institutions publiques, le Parlement, la municipalité, la culture étatique et l'université, le renvoi des répertoires distincts permettait de lier la nouvelle Vienne à tous les âges d'or disponibles, à tous les âges d'or en stock. Mise en œuvre, quittons un peu l'Europe, mise en œuvre par les États-nations sur leur propre territoire et notamment dans leur capitale, la recherche d'une architecture chargée de sens politique est une composante forte, évidemment, des politiques coloniales, qui conduit selon les cas à des formes pures ou à des formes hybrides. Dans le cas des édifices marquants laissés par les Britanniques en Inde, les secondes, les formes hybrides, dominent. À l'exception des églises, assez peu nombreuses, les écritures néo-gothiques très rigoureuses sont rares. Mais certains éléments gothiques se voient associés à des formes orientales ou à des textures orientales, comme dans le cas de la gare Victoria, aujourd'hui Chhatrapati Shivaji Terminus de Mumbai, construit à partir de 1888. Cette écriture dite néo-saracénique, néo-sarrasine, fait appel à des éléments largement fictifs. Cela a été démontré par d'excellents historiens britanniques. En revanche, autre langage, lorsque Lothian édifie le palais du vice-roi, qui est l'élément dominant de son plan pour la Nouvelle Delhi, achevé en 1931, il associe un plan axial très complexe, il y a des centaines de pièces dans ce bâtiment, à un ensemble de traits empruntés à l'architecture moghole. Le bâtiment est réglé par un ordre unique. On ne le voit pas très bien sur cette façade, d'ailleurs, c'est bizarre, mais c'est la façade sur les jardins, alors que l'ordre est plutôt de l'autre côté. Cet ordre unique que l'on dénommera le dorique de Delhi. La mince corniche, on la voit ici, est à l'image de la Chuja. Ces toits sont ponctués par des pavillons évoquant les chatris de l'architecture moghole, et le motif de pierre entourant la coupole, cette fois, est emprunté à l'Inde bouddhiste et notamment à la stupa de Sanchi. J'ai évoqué le mouvement postérieur et parfois parallèle que l'on peut détecter dans la politique conduite par les Français en Afrique du Nord en présentant les programmes initiés en Algérie par le gouverneur Jonnard ou ceux de Lyautey au Maroc. Je n'y reviens pas. Et je vous entraîne plutôt vers l'est de l'Europe où la jeune Union soviétique, où l'imposition du slogan d'un réalisme dit socialiste à l'architecture soviétique, imposition qui se met en place au début des années 30, fait figure de cas précoce de postmodernisme, comme le postmodernisme des années 80, le réalisme socialiste, à une dimension passéiste, comme le postmodernisme, il est réactif, il réagit à ce que certains Russes considèrent à l'époque les excès des avant-gardes. Les projets des différents groupes de l'avant-garde, en effet, sont considérés par une partie des dirigeants russes comme incapables de répondre à l'attente esthétique des masses au nom desquelles ces dirigeants entendent parler, après que les mêmes dirigeants aient été manipulés par certaines factions internes à la profession qui aspiraient à la commande que les architectes de l'avant-garde semblaient monopoliser. Comme dans le champ de la littérature où les dites masses sont décrétées ne rien comprendre aux poésies de Maïakovski, un facteur qui s'ajoute à ceux d'ordre plus intime conduisant à son suicide, l'architecture des boîtes modernes est critiquée par les tenants d'un art prolétarien selon lesquels, comme les riches, comme les anciens possédants de l'ancien régime, le peuple aurait droit aux colonnes. Alors, le principe cardinal de ce que Régine Robin, théoricienne de la littérature, française active au Canada, de ce qu'elle a considéré comme une esthétique impossible, celle du réalisme socialiste, le principe cardinal est l'assimilation dite critique de l'héritage. Un slogan qui se prête évidemment à toutes les interprétations. En matière littéraire, c'est le roman du XIXe siècle qui est considéré comme canonique, position qui est au centre de la controverse qui oppose par exemple le Hongrois György Lukács à Bertolt Brecht à la fin des années 30, Brecht étant un partisan de la littérature moderne. Mais quels sont les passés acceptables en architecture ? Assurément pas l'architecture de la Russie médiévale, considérée comme une expression de la féodalité, pas plus que l'architecture de Rome, considérée comme émanant d'une société esclavagiste. C'est vers la Renaissance, époque où la bourgeoisie, classe montante, est considérée dans le discours de l'époque comme progressiste, que s'oriente la recherche des précédents. Et peu importe ici si Joltovski, très fin dessinateur, avait déjà utilisé sa connaissance de Palladio au service des marchands de la Moscou d'avant 14. Ici, Joltovski, en 1913 à Moscou, produisant une version dilatée du Palazzo Thiene de Palladio à Vicenza. 20 ans plus tard, le même Joltovski construit le premier édifice considéré comme illustrant le canon du réalisme socialiste sur la rue Mokhovaya, en dessous du Kremlin. Un édifice qui, cette fois-ci, est dérivé de la loggia du Capitaniato, du même Palladio, toujours à Vicenza. Donc, vous voyez, deux palladianismes différents au service de deux clientèles tout à fait différentes. Par la suite, les projets de Joltovski connaîtront ce qu'un auteur du nom de Göller, l'esthéticien du nom de Göller, défini comme étant la forme Ermüdung en allemand ou la fatigue esthétique. Par exemple, avec son immeuble pour les cadres du ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de la police politique de 1954, encore 20 ans plus tard. C'est un autre Palladio, alors cette fois-ci réduit à peu de choses, réduit à ce petit impietto en haut du beffroi. C'est un autre Palladio que Joltovski emprunte ses formes. Pour la même redoutable institution, la police politique, Chiusev considère le palais Farnèse de Vignoles à Caprarola comme un précédent légitime et réalise ainsi, comme Vignoles, une des rares architectures jamais pensées sur un plan pentagonal. Redevenue capitale en 1918 après deux siècles d'éclipse, Moscou utilise des figures urbaines empruntées à Saint-Pétersbourg, par exemple pour l'aménagement des quais, pendant que les grandes compositions classiques françaises permettent d'illustrer la notion d'ensemble qui est opposée au projet sériel des constructivistes. Là aussi, je devrais revenir dans le détail. Mais il est aussi possible de voir dans la capitale retrouvée de la Russie une autre Rome. Au XVIe siècle, le moine Philothéus, ou Philothei en russe, avait vu en Moscou la troisième Rome, après celle de l'Antiquité et la Rome chrétienne, adjurant le tsar de prendre conscience de ce statut. Ainsi que l'a montré l'historienne américaine Catherine Clark, c'est désormais une quatrième Rome que la Moscou stalinienne entend devenir, régnant concrètement et symboliquement sur l'humanité dite progressiste. Ce tropisme romain ne rend que plus intéressant, plus amusant même, l'attention de certains Russes de ce moment précis, comme Lazar Rempel, historien de l'architecture, pour l'architecture de l'Italie fasciste. Rempel croit y voir des enseignements utiles pour l'Union soviétique, une position sans doute un peu trop hardie et qui entraînera sa disgrâce et sa relégation en Asie centrale, où il consacrera la suite de sa vie à étudier l'urbanisme médiéval. Un tournant dans la transition, châtiment fort mesuré dans le contexte de la Russie stalinienne, un tournant dans la transition forcée vers le réalisme dit socialiste est marqué par les trois concours organisés entre 1931 et 1933 pour la construction d'un palais des soviets à Moscou, une sorte de capitole, d'édifice central. Le terme de capitole, l'attente d'un capitole pour la Russie, était formulé depuis le XIXe siècle. Dans un premier temps, les architectes et les collectifs ouvriers russes sont invités à soumettre leurs projets, explorant des formes parfois assez naïves et dont je vous fais grâce. Puis un concours international est organisé auquel une série de grands professionnels occidentaux sont invités, comme Walter Gropius, qui est encore actif en Allemagne à l'époque, Hans Pölzig ou Auguste Perret. Curieusement, un architecte très important de la Rome fasciste, Brasini, est aussi invité au travers de réseaux de sociabilité russo-italiens. Bien entendu, Le Corbusier y participe, lui qui fréquentait beaucoup la Russie à l'époque, et il pratique à sa manière, de manière tout à fait originale, son assimilation critique de l'héritage lorsqu'il compare son projet au Campo dei Miracoli de Pise dans ce dessin de 1934 fait après coup, dans lequel, vous voyez, il compare ses projets en disant, il compare son projet et ses composantes à l'ensemble de Pise en disant qu'on y trouve la même unité dans le détail et le même tumulte dans l'ensemble. Il cite une phrase de l'abbé Laugier, de l'essai sur l'architecture publié par l'abbé Laugier au XVIIIe siècle. Parmi les lauréats du concours, de la première grande phase du concours, le projet de Joltovski va polariser les sarcasmes de Le Corbusier avec ce collage associant un colisée à des arcades et à une tour néo-russe. Après une troisième phase qui voit s'affirmer des grands volumes vaguement modernes, comme celui des frères Viestin, ou des volumes figés dans un délire où se rencontrent le palais des Doges et la colonne Trajan avec les drapeaux rouges et les biplans russes de l'époque, c'est en définitive Boris Iofane qui est désigné en partie du fait de ses bonnes connexions dans l'appareil du parti et de l'État et qui met en forme le projet définitif, dont vous voyez la maquette ici présentée au bureau politique de Staline avec le malheureux Gorki comme otage. C'est un projet définitif dans lequel la main de l'intervention de Staline a été prouvée. C'est un rare cas d'intervention directe d'un dirigeant qui corrige le projet. C'est lui qui décide personnellement d'empiler verticalement, vous le voyez à gauche, la salle de congrès, ici, avec sa coupole emballée dans un autre colisée, la tour et la statue qui figuraient dissociées dans la première variante du projet de Iofane. Le projet qui en résulte trouve sa représentation la plus parlante dans une coupe, vous voyez ici, qui rend compte de la superposition de la grande salle, d'une sorte de gratte-ciel et d'une statue colossale inspirée de celle de Bartholdi à New York. Les intentions ici sont donc multiples. C'est l'abondance, l'accumulation des références et le projet tel qu'on le voit présenté en 1939 dans ce dessin, s'inscrirait plutôt dans le registre de l'américanisme alors endémique en Russie, dont j'ai eu l'occasion de parler ici, que dans celui de la nostalgie historiciste. Avec l'invasion, et nous revenons à la guerre ici, avec l'invasion nazie de la Russie, des thèmes fort clos font leur réapparition, car Staline fait appel au nationalisme russe pour galvaniser la résistance. Du coup, des projets de reconstruction comme celui-ci très précoce de Chusev pour la petite ville d'Istra, ces projets laissent apparaître des formes russes qui étaient bannies dans les années 30. Dans l'après-guerre, ces formes seront associées à des types clairement américains lors de la réalisation du programme des Sept Sœurs moscovites. Dans une nouvelle situation après 1945, qui voit une partie de l'Europe passer sous l'hégémonie soviétique, les architectes des démocraties dites populaires doivent s'aligner, ce qui conduit à un faisceau de démarches parfois originales. À Berlin-Est, les bâtiments de Carl Friedrich Schinkel, autour de 1800, et ceux de Ludwig Hoffmann, architecte du début du XXe siècle, sont la source des premiers ensembles de logements, Schinkel à gauche, Hoffmann à droite, réalisés par Hermann Henselmann, qui est l'auteur de la fameuse Stalinallee, dont vous voyez le début en haut à droite. En Hongrie, un exemple qui mériterait d'être discuté plus longtemps, c'est ici, dans cette ville nouvelle qui s'appelle Stalinville, Stalinváros, que l'ancien élève du Bauhaus Tibor Weiner, qui était parti en 1930 en Russie avec Hannes Meyer, explore un certain répertoire historique pour construire le théâtre ou le palais de la culture de cette ville nouvelle. Si on revient aux années 30, on trouvera sans peine d'autres situations dans lesquels des figures fondatrices de l'architecture moderne, je pense à Weiner par exemple, sont amenées à utiliser des thèmes historiques. Un des exemples les plus intéressants, c'est celui de l'activité de Bruno Taut, architecte allemand moderne, dans la Turquie kémaliste, où il travaille après son exil, son premier exil au Japon. Taut réalise plusieurs bâtiments, comme cette faculté d'Ankara, qui est toujours debout, dans laquelle les espaces majeurs utilisent les thèmes de l'Empire, notamment les faïences de l'Empire sassanide, que ce soit par sens du jeu ou par adhésion au projet nationaliste du régime d'Atatürk. Alors, j'ai jusqu'ici laissé de côté les politiques pratiquées par les deux grands totalitarismes de l'Europe occidentale, mais elles sont évidemment totalement incontournables. J'y reviendrai plus dans le détail dans les deux semaines qui viennent. Le plus précoce de ces totalitarismes, l'Italie fasciste, n'a cessé de proclamer sa continuité avec la Rome impériale. Continuité qui prend des formes multiples, du registre héraldique, le faisceau, emblème du régime, aux travaux lancés pour mettre en valeur les sites antiques romains. Mais les langages architecturaux pratiqués sont multiples et se fondent sur des interprétations très orientées de la romanité. Vous voyez ici les grandes étapes de l'expansion coloniale de Rome figurées sur la Via dell'Impero. Au travers d'organismes ad hoc, comme l'Istituto di Studi Romani, animé par l'architecte Carlo Cecchelli, une campagne déterminée, délibérée de réinterprétation des vestiges archéologiques romains et byzantins est conduite. Donc il y a un appareil de scientifiques travaillant pour la romanité et se proposant de voir des valeurs positives et d'avenir dans cette romanité. La nouvelle Renovatio Urbis que Mussolini entend pratiquer associera des interventions modernes et conservatrices. On y verra plus clair bientôt. Les penchants relativement modernistes du Duce, en tout cas initialement modernistes, ne résistent pas cependant aux intrigues de professionnels comme Piacentini et au conseil des spécialistes de la communication politique, sensibles aux mises en scène de Hollywood et de Cinecittà. Ici, le rapport avec le cinéma mériterait d'être exploré, j'y reviendrai sans doute. Les décors du Cabiria de Giovanni Pastrone, film de 1914, qui avait impressionné Griffith et lui avait inspiré les décors d'Intolerance, sont présents à l'esprit de Brasini ou de Piacentini, qui imagine en 1926 cette nouvelle épine dorsale de Rome qui relie les thermes de Dioclétien à l'est de la ville avec une grande gare à l'emplacement de Termini. Dans le cas du nazisme, qui semble parfois modeler ses programmes sur ceux de l'Italie, il y a une sorte de rapport spéculaire entre Rome et Berlin notamment, les précédents invoqués sont de plusieurs ordres, ce qui traduit le relatif pluralisme régnant, en tout cas pendant un certain temps, au sein des sphères du pouvoir. L'ajustement entre les dirigeants politiques et les experts de l'architecture et de l'urbanisme passe par une série de médiations, l'action notamment d'organismes comme le Kampfbund für Deutsche Kultur de Schulze-Naumburg, qui est l'auteur de ce bâtiment, de ce modeste bâtiment provincial. Seuls quelques édifices font appel aux souvenirs des châteaux teutoniques, comme l'Ordensburg de Vogelsang, école de cadre construite dans l'Eifel par Klotz. En effet, la grandiloquence des ordonnances classiques de Speer n'est réservée qu'au plus solennel des ensembles destinés aux fêtes du parti nazi, tels ceux de Nuremberg. J'ai déjà parlé du travail de Thams et notamment de son plaidoyer en faveur de la grandeur en architecture. C'est aussi une des dimensions de l'action du nazisme qui se nourrit. Vous le voyez ici, à la fois de la modernité technologique lorsqu'il s'agit de construire l'édifice en béton à gauche, avec des techniques très avancées. Les Allemands vont jusqu'à consulter pour certains de leurs ouvrages pendant l'occupation Freycinet, l'ingénieur français Freycinet. Mais vous voyez que dans le même temps, l'après-guerre de cet édifice est pensée comme devant se modeler sur les édifices de Schinkel. Lorsque les architectes du Reich s'emploient à concevoir des mémoriaux, les précédents sont ajustés aux circonstances géographiques. J'ai déjà parlé du travail de Wilhelm Kreis, mais je voudrais revenir sur son Totenburg, qui était, je vous le rappelle, censé se dresser sur les rives du Dniepr pour célébrer la victoire nazie sur l'Union soviétique. Il aurait pris la forme d'une pyramide conique et creuse, vous voyez la coupe en bas, qu'il est possible de rapprocher à la fois du cénotaphe, de ce cénotaphe en bas dessiné par Boulet, et qu'Émile Kaufmann avait exhumé en 1933 dans son livre Von Ledoux bis Le Corbusier, qui était connu aussi des architectes conservateurs comme Kreiss, et évidemment, il évoque le tumulus de Waterloo. Coïncidence troublante, il est proche, en tout cas par l'intermédiaire de Waterloo, de ce projet de mémorial conçu par les Russes pour célébrer leur victoire à Stalingrad. Je reviendrai plus en détail sur ces deux situations de l'Allemagne et de l'Italie. Quant à la Russie, le remplacement des premiers révolutionnaires attachés pour certains à l'invention artistique par les nouveaux cadres sensibles au kitsch et rassurés par les architectes historicistes se conjugue avec la rancune du parti contre les constructivistes. Dans tous les cas, ici aussi, des historiens de l'art et de l'architecture, même à leur corps défendant, Kaufmann, juif, a dû quitter l'Allemagne, sont actifs pour célébrer les projets et, s'ils ne les célèbrent pas, pour les légitimer. Les nouveaux nationalismes se sont mis à la recherche de types ou de figures utilisables. Il en va ainsi des premières décennies du pouvoir soviétique, lors desquelles une certaine pression s'exerce sur les républiques afin qu'apparaissent des langages spécifiques. Si la tendance dominante est à la recherche d'éléments décoratifs puisés dans les répertoires historiques et déployés selon des plans académiques, des tentatives plus originales apparaissent. J'en évoque une ici qui est particulièrement amusante. Lorsqu'il est invité en 1933 à participer au jury d'un concours à Nalchik, dans la capitale de la République de Kabardino-Balkarie, Eisenstein, le metteur en scène de cinéma, fait une proposition surprenante. Il critique le projet de maison des soviets suggéré par les concurrents, dans lequel il voit un Palazzo Pitti et dont il tourne en dérision le fait qu'il soit peuplé sur les dessins de personnages vêtus de draperies dans des poses de ghirlandaio ou d'uccello. Pour ancrer l'architecture de la Nouvelle République, non pas dans la Renaissance florentine, mais dans la culture nationale, il suggère d'utiliser ce que vous voyez en haut, le chapeau de feutre blanc des bergers locaux. Il écrit « Cette forme toute simple et belle peut être à la base d'un nombre infini de variations pour tous les types de problèmes classiques posés par les volumes et les surfaces. » Et il propose de le manipuler afin d'obtenir une forme proche de celle du palais des Soviets proposée par Le Corbusier. Retournons le chapeau, vous le voyez retourné ici, mettons-le à l'envers, recoupons-le par un disque à différents niveaux, que vous voyez ici, transformons la corniche en balcon, posons-le sur le flanc, c'est ce qu'on voit ici, nous obtenons des variations sur n'importe quel thème, et le reste est affaire de sites, de fonctionnalités, de béton, de relief et autres. Évidemment, la proposition ludique d'Eisenstein n'aura aucun écho. L'aspiration à inventer une culture nationale, en revanche, se refera jour à la fin du XXe siècle dans les nouveaux États issus de l'éclatement de l'Empire soviétique et qui n'avaient pas tous une architecture monumentale historique. Ainsi, dans un pays largement peuplé de nomades comme le Kazakhstan, il n'y avait guère de précédent utilisable, à part celui de la yourte ou de la tente. Pour édifier dans les steppes Astana, nouvelle capitale devant remplacer Almaty, fondée par les Russes à la fin du XIXe siècle, le président à vie Nazarbayev a recruté au Japon Kurokawa. Dans son plan, l'éclectisme est la règle en matière d'édifices publics, un éclectisme moderne, mais cependant parfois historiciste. Le palais du président, que je ne vous montre pas, évoque la Maison-Blanche de Washington, l'opéra, le théâtre Bolchoï de Moscou, dans une sorte de grand écart géographique. Le palais de la paix et de la réconciliation, construit par Norman Foster, est une pyramide de verre de 60 mètres de haut, et le même Foster a conçu le Khan Shatir en haut, tente en acier et verre, censée évoquer celle de bois et de feu des nomades. En l'absence d'autres sources bâties exploitables, le signal vertical dominant le centre, également dessiné par Foster, mais, dit-on, sur un dessin du président lui-même, le Baïterek évoque la légende de l'arbre de vie, un peuplier dans lequel l'oiseau mythique Samrouk aurait pondu un œuf magique devenu ici une sphère dorée. Ainsi, ce centre d'Astana où Dubaï semble rencontrer Brasilia, qui ressemble à une grande maquette peuplée de malheureux humains, échappe-t-il au prix du kitsch le plus débridé à la circularité des références architecturales ? Comme le montrent ces convergences entre les mémoriaux allemands et russes, des régimes opposés puis au fond dans un répertoire relativement limité lorsqu'ils entendent trouver une légitimité dans l'histoire, revendiquant souvent leur relation avec des périodes historiques ou des lieux distants. Plusieurs considérations d'ensemble paraissent utiles à ce stade. La première est d'ordre architectural. Le dispositif de la translation d'une forme dans le temps, une des formes de l'intertextualité architecturale, porte selon les cas et parfois simultanément, si j'utilise un modèle linguistique, sur la syntaxe et sur le lexique. Le recours à ce dernier est plus évident tant il est facile de réduire l'histoire de l'architecture à celle de style, entre guillemets, terme que je n'utilise que très peu, comme vous l'avez vu, dont le décor serait l'expression. Mais la syntaxe, autrement dit le mode d'organisation des espaces et des éléments d'architecture, peut aussi faire l'objet d'une appropriation. Il est intéressant de noter combien certaines périodes concentrent l'attention de maîtres d'ouvrage et d'architectes que tout semble opposer par ailleurs. C'est d'une véritable fixation que l'on pourrait parler à propos de la Grèce antique, que Karl Marx considérait comme l'enfance de l'humanité, fixation infantile donc, de Rome ou du Moyen-Âge, roman ou gothique, de la Renaissance ou encore du classicisme du XVIIIe siècle. Quant au type d'édifice, ils sont susceptibles d'interprétations fort différentes. L'analyse de Kubler sur l'objet premier confronté à la réplique venant ici à l'esprit. L'idéal du temple grec est utilisé à des fins mémoriales dans le Valhalla de Klenze à Regensburg, à Ratisbonne, pour les sessions du Parlement par Hansen à Vienne, mais aussi pour celles de la Cour suprême à Washington par Cass Gilbert. La lecture n'est pas ici formelle, comme celle que fait Le Corbusier dans Vers une architecture, mais métonymique. Le temple renvoie avant tout à l'âge d'or de la démocratie. Il en va évidemment différemment des temples édifiés par les nazis qui entendent souligner la continuité raciale mythique des Ariens. Quant au programme politique, le gothique est aussi recevable pour l'architecture des assemblées élues. Le gothique est recevable de Westminster au Parlement de Budapest, qui en est une sorte de réplique ou d'extension dans laquelle le modèle d'origine est repris indirectement. Cette fois, la métonymie rencontre de la foi ou de l'esprit collectif qui a présidé à la construction des cathédrales. Plus encore que l'édifice proprement dit, le lieu chargé historiquement qui le reçoit devient à l'occasion nomade aussi. L'archétype du Capitole romain est transporté à Washington sous la forme d'un grand édifice à coupole et non celle d'un temple ou d'un espace ouvert. Et la transposition faite de la colline en question, du Capitole par Michelangelo, se retrouve, regardez ce trapèze qui évoque la forme de la place du Capitole que connaissait très bien Tanguy, cette forme se trouve dans le mémorial de la Daitoa qu'il se proposait d'édifier sur les pentes du mont Fuji pour célébrer les victoires du régime japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. L'archétype du forum est utilisé de manière systématique, tant à Moscou, lorsque Lissitzky critique en 1934 un des concours postérieurs à celui pour le Palais des Soviets, j'y reviendrai peut-être aussi, qu'à Rome, évidemment, sur les bords du Tibre et dans les villes emblématiques du Troisième Reich, les Führerstädte, les villes dédiées aux Führers, chacune centrée sur un Gauforum monumental comme celui de Gisler à Augsbourg. Et je n'aurai pas la cruauté d'insister sur le fait que le château de Berlin reconstruit s'appelle aussi Forum. Je reviendrai pour terminer à la recherche des précédents dans laquelle tant les architectes que leurs mandants se trouvent engagés, mais avec des perspectives différentes. Dans son introduction à complexité et contradiction en architecture, je n'utilise pas le titre niais de la traduction française de ce livre, de l'ambiguïté en architecture, ce livre dans lequel Robert Venturi relie en 1966 l'architecture moderne dans une large perspective historique. Ce n'est pas un livre anti-moderne, c'est un livre qui célèbre Alto, par exemple, qui souligne les vertus de Luigi Moretti à Rome. Ce n'est pas du tout un livre anti-moderne, même s'il a été utilisé dans ce sens. Venturi cite un texte de l'historien Henry Russell Hitchcock, qui écrit en 1960 « Il y a toujours un besoin réel pour réexaminer les œuvres du passé. Il y a presque toujours un intérêt un intérêt général pour l'histoire de l'architecture parmi les architectes. Mais les aspects ou les périodes de l'histoire qui semblent à un moment donné mériter l'attention la plus précise varient avec les sensibilités changeantes. Un cas emblématique sur lequel j'entends terminer, de ce rapport à l'histoire, qui n'est pas un rapport dans lequel elle est pillée ou mise à profit ou détournée, est celui de l'employeur de Venturi, que fut un temps Louis Kahn, chez qui Venturi a travaillé à Philadelphie. Ces croquis de 1929 à San Gimignano, qui restent inscrits au-delà du papier dans ce que Bruno Fortier a magnifiquement appelé la bibliothèque mentale des projets de l'architecte, déterminent son projet de 1957 pour les laboratoires Richards. Son œuvre dément par la subtilité de son écriture l'adage du XVIIIe siècle que Kosellek rappelle dans le futur passé. Si fingat, peccat in historiam, si non fingat, peccat in poesin. Celui qui invente pêche contre l'histoire, celui qui n'invente pas pêche contre la poésie. Tout se passe donc comme si cette pulsion des architectes au réexamen, allant jusqu'à la réplique, était largement partagée par les régimes à la recherche de fragments d'histoire disponibles. Fragments dans lesquels les formes architecturales sont invariablement couplées avec des récits rassurants ou mobilisateurs. Le plus souvent mythiques, ces récits, associant un édifice et un mythe fondateur, ou un fragment d'histoire mythifié, ces récits partagent, en dépit de leurs différences, un même centrage, celui d'une attention, d'une obsession, d'un âge d'or dont le retour serait rendu possible, comme par miracle, par le truchement magique de l'architecture. Merci.